Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Acteurs Publics TV pour cette nouvelle rencontre des acteurs publics ici au Conseil d'État, des rencontres sur la thématique des états d'urgence et de la démocratie sous contrainte. C'est l'étude annuelle du Conseil d'État. Pour en parler, Marie-Laure Denis, bonjour. Vous êtes la présidente de la CNIL, l'autorité indépendante de contrôle des données personnelles notamment. Vous avez été mis à forte contribution pendant la crise puisqu'il y a eu de nombreux outils, systèmes d'information qui ont été déployés. Il y a eu la fameuse application Tous Anti-Covid notamment, mais il n'y a pas que ça. Comment vous avez été mis à contribution justement dans une période comme celle-ci où il a fallu rendre des avis très régulièrement et très rapidement aussi?
Écoutez, en tout cas, le collège de la CNIL, parce que c'est une autorité collégiale, et les services se sont beaucoup mobilisés pour veiller à concilier au mieux la protection de la vie privée, qui est un droit fondamental, et la préservation de la sécurité sanitaire. Et pour ce faire, il faut bien voir que la spécificité de cette crise, et ça a un lien naturellement avec le rôle de la CNIL, c'est que beaucoup de systèmes d'information ont été mis en place par les pouvoirs publics pour piloter la sortie de crise, que ce soit la collecte des résultats des tests, la centralisation des cas contacts, un système d'information sur les vaccins, une application de traçage numérique. Et par définition, la CNIL a été très sollicitée, à la fois en amont, puisque le Collège de la CNIL a rendu 12 avis depuis avril 2020 sur ces systèmes d'information, qui sont des avis publics, hein, sur des projets de loi ou des projets de décret. J'ai été auditionnée une dizaine de fois au Parlement sur le sujet. Nous sommes en train d'élaborer le quatrième rapport au Parlement, nous en faisons un tous les trois mois, sur les modalités de mise en œuvre de ces systèmes d'information, savoir concrètement si les garanties qui avaient été prévues ont été respectées. Et puis, en aval, parce que la CNIL a ce double rôle d'accompagnement et de contrôle, je crois que l'institution ne s'est jamais autant mobilisée depuis plus de 40 ans qu'elle existe sur un contrôle en continu de systèmes d'information, puisque nous avons déjà procédé à une quarantaine de contrôles de ces différents systèmes d'information et parfois adressé des mises en demeure quand c'était nécessaire pour que les garanties concernant la vie privée des citoyens soient préservées.
Et comment ça se déroule concrètement, justement, là, ces contrôles? Vous avez lancé plusieurs campagnes de contrôle, même, puisque ça concernait différents systèmes. Comment ça se déroule concrètement?
Nous avons plusieurs types de contrôles, des contrôles sur place, naturellement, mais compte tenu du sujet, accompagné par un médecin d'ailleurs, hein, pour préserver le secret médical. Et nous n'arrivons pas comme des cow-boys. Nous avons bien conscience que c'est aussi une période particulière où les équipes médicales, les équipes administratives, par exemple de la CNAM, des ARS, etc., sont très mobilisées. Nous faisons ça en bonne coordination avec elles. C'est souvent précédé d'un dialogue. Nous faisons aussi des contrôles sur pièce, des contrôles par audition. Les buts de ces contrôles, c'est pas de gendarmer pour gendarmer, si j'ose dire. C'est vraiment d'abord de s'assurer que les garanties qui ont été prévues en matière de minimisation des données, de durée de conservation des données, par exemple de sécurité de ces données, qui y a accès, comment, sont bien respectées. Mais il y a un but fondamental, c'est de contribuer à la confiance que les individus peuvent avoir dans ces systèmes, parce que ça ne sert pas à grand-chose de déployer une application de traçage numérique si les gens ne veulent pas la télécharger ou s'ils ont peur de la télécharger. Ça n'est pas très utile de déployer des milliers de personnes pour appeler des cas contacts si les personnes sont réticentes à l'idée de délivrer un certain nombre d'informations sur leurs cas contacts. Donc, cette confiance à laquelle la CNIL contribue est un élément essentiel, je pense, du bon usage de ces systèmes d'information.
Sur ces systèmes, justement, on l'a vu particulièrement pendant la crise, même si c'est un principe qui guide l'action de la CNIL de manière générale, vous avez dû peser à chaque fois qu'il y a un nouveau dispositif qui devait être mis en œuvre, les pour et les contre, l'intérêt général, l'atteinte aux libertés. Comment vous avez placé ce curseur-là et est-ce qu'il a été placé différemment, justement, là, parce qu'on était en temps de crise et en état d'urgence sanitaire, est-ce qu'il a été placé différemment par rapport en situation normale?
Alors, fondamentalement, le curseur, à un moment, il est placé par le législateur, hein, d'une certaine façon. Mais la CNIL veille en amont, effectivement, finalement, à ce qu'il y ait deux principes qui sont plutôt de bon sens, qui sont des principes juridiques, mais de bon sens, qui soient respectés. C'est le principe de nécessité. Est-ce que ce traitement, est-ce que toute cette collecte d'informations, de données, elle est vraiment nécessaire ? Et le deuxième principe, c'est le principe de proportionnalité. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens moins intrusifs? Quelles sont les garanties que l'on va apporter? Et en tout cas, je voudrais battre en brèche une idée qui a pu à un moment émerger, qui est que la vie privée a pu parfois servir, la protection de la vie privée, de bouc émissaire sur le thème à cause du RGPD, par exemple du règlement général sur la protection des données. On ne peut pas lutter aussi efficacement qu'on le voudrait contre la crise. Je m'inscris en faux là-dessus parce que les principes de la protection des données, ceux que je viens d'énoncer, nécessité, proportionnalité, un certain nombre de garanties, ils ont montré leur robustesse, leur souplesse, la neutralité technologique et la rapidité avec laquelle la CNIL, mais les autres autorités de protection des données en Europe, ont réagi à ces sujets. Et d'ailleurs, il y a eu une belle coopération européenne entre les autorités de protection des données, ne serait-ce que sur les applications de traçage numérique, pour s'assurer à terme, enfin, dans un terme qui ne doit pas perdurer, naturellement, mais de leur interopérabilité, etc. Voilà, pour essayer de répondre à votre question. Et une mobilisation de tous les instants en termes de méthode. Nous avons aussi, avec une sorte de commando, pu répondre à une centaine d'autorisations de recherche sur la Covid qui nous ont été adressées, parce que c'est la CNIL qui autorise un certain nombre de recherches dans la mesure où, compte tenu des données que vous donnez, des données très sensibles, des données de santé, des données intimes, il y a une incidence sur la protection de la vie privée. Et on a réussi à délivrer une centaine d'autorisations de recherche, en moyenne pour la moitié d'entre elles, en moins de 2 jours, parce qu'on pré-instruisait, dans un dialogue avec les organismes de recherche préalablement, ces demandes d'autorisation.
Est-ce que vous avez justement, comment vous avez dû vous organiser pour répondre là aux enjeux dont on parlait, mais dans l'immédiat, puisqu'on parle des fois de quelques jours, vous avez été sollicité par le gouvernement pour avis, il fallait remettre en quelques jours un avis. Comment vous êtes organisé pour faire face à ça? Est-ce que ça va vous servir peut-être pour la suite maintenir une organisation?
Écoutez, on sait, je pense, avec un esprit de responsabilité que tout le monde partage, que ce soit les membres du collège ou les services, et avec une qualité de dialogue qui a été ininterrompue avec les pouvoirs publics en général. Il y avait aussi les collectivités locales, d'ailleurs, qui se posaient un certain nombre de questions sur les centres de vaccination, sur l'utilisation de tel ou tel fichier pour distribuer des masques, etc. Nous avons vraiment essayé, et j'espère que nous y sommes parvenus, à rendre aussi rapidement que possible nos avis, et encore une fois couplé avec un contrôle une fois que les systèmes d'information sont mis en œuvre.
Là, on parlait de l'état d'urgence sanitaire qui en fait n'est pas encore fini, donc on se penche vers l'avenir, mais on est encore dans le cœur de l'action, on va dire, de l'état d'urgence sanitaire. Comment vous faites malgré tout pour essayer d'anticiper, de regarder vers l'avenir, de voir comment peut-être mieux réagir aux futures crises, qu'elles soient sanitaires ou pas d'ailleurs?
En tout cas, nous essayons effectivement de ne pas avoir toujours, comme on dit un peu familièrement, le nez sur le guidon. Nous essayons de faire de la prospective. La CNIL est chargée par la loi sur la République numérique de 2016 d'une animation plus particulière du débat éthique sur les usages du numérique. Donc là, par exemple, nous allons tenir un colloque début novembre sur le partage des données. Partage des données, protection des données, ouverture des données, notamment des données publiques et protection des données, comment peut-on concilier cela? Nous avions fait aussi un colloque sur les civic tech, nous nous sommes penchés sur les algorithmes. Plus précisément et en lien un peu avec la crise sanitaire, nous avions organisé un colloque à l'automne dernier sur liberté et droit du travail et liberté au travail. Est-ce qu'un employeur, typiquement pendant la crise sanitaire, pouvait imposer à un salarié d'apparaître à l'écran dans le cadre d'une visioconférence? Nous avons délivré beaucoup de contenus, beaucoup de conseils pour les salariés et les employeurs sur notre site, ne serait-ce qu'en matière de sécurité des données, parce que naturellement cette crise sanitaire, elle a accentuer d'une façon considérable les usages du numérique. C'est vrai pour le télétravail, c'est vrai pour le téléenseignement. Nous avons reçu d'ailleurs pas mal de plaintes sur la question de la surveillance en ligne des examens, par exemple. C'est vrai aussi pour la télémédecine. Rendez-vous compte, en 2019, il y avait 60 000 consultations de télémédecine. L'année dernière, plus de 5,5 millions. Donc, naturellement, il faut accompagner. Il y a beaucoup de contenu sur notre site qui reçoit plus de 10 millions l'année dernière de visites par an, plus 25% en un an, ce qui montre l'appétence d'ailleurs, hein, l'intérêt, la curiosité des personnes pour essayer de défendre au mieux leurs données. 10 millions de visites sur un site, c'est l'équivalent de la fréquentation du ministère de la Justice. Donc nous essayons vraiment de donner des outils aussi. Nous avons un MOOC, un cours en ligne sur la protection des données, et puis nous avons un dialogue continu avec les différentes parties prenantes, que ce soit les représentants des entreprises, trois partenariats avec les associations de collectivités locales, et un dialogue continu avec les différents ministères qui nous sollicitent.
Vous le disiez à l'instant, il y a des usages qui sont nés pendant la crise, là, qui vont perdurer même après l'état d'urgence, même après la crise. Comment on fait pour s'adapter à cela, et comment on fait aussi, parce que c'était aussi une des craintes avec Stop Covid, Tous Anti-Covid, c'est que c'est mis en place à titre temporaire, dérogatoire, mais ça banalise ce genre de technologie et d'usage. Est-ce que derrière vous allez faire une analyse, un retour d'expérience sur ces applications-là et dire qu'elles étaient, qu'elles avaient leur intérêt en cette période-là, mais qu'après coup, il va falloir voir si elles ont vraiment été efficaces, notamment.
Vous avez tout à fait raison, c'est très important d'évaluer. Nous, d'ailleurs, c'est une des choses que nous demandons au pouvoir public, c'est de pouvoir vraiment documenter très régulièrement les résultats des différents systèmes d'information qui sont mis en place, précisément pour pouvoir analyser leur efficacité. Parce que la réponse, elle est un peu contenue dans votre question. À partir du moment où ce sont des systèmes d'information qui sont des mesures d'exception, qui sont exceptionnelles, qui n'ont pas vocation à durer, c'est toute la difficulté des états d'urgence. D'ailleurs, j'imagine que vous avez analysé ou vous allez analyser pendant ces journées, c'est d'en sortir une fois qu'on est rentré dedans. Concrètement, nous veillons et nous veillerons quand ces systèmes d'information seront supprimés, à ce que l'ensemble des données soient également supprimées. Ça sera notre dernière campagne de contrôle, on sera très heureux de la faire. Et vous avez utilisé le mot de banalisation qui est tout à fait important. Nous sommes très vigilants et attentifs d'une façon générale à ce que on ne tombe pas dans ce qu'on appelle un peu dans le jargon de la protection des données le solutionnisme technologique. Le débat s'est beaucoup cristallisé médiatiquement et politiquement, par exemple sur les applications ou sur l'application Stop Covid, qui est devenu Tous Anti-Covid, de traçage sanitaire. Ça peut se comprendre. Pour la première fois, une application de traçage numérique mise en œuvre par un gouvernement. Mais en même temps, cette application qui intégrait dès sa conception les principes de protection des données. Il n'y avait pas de géolocalisation, il n'y avait pas d'identification des individus, etc. Elle mérite pas plus d'attention, d'une certaine façon, même si on l'a contrôlée une dizaine de fois déjà, que les grands systèmes d'information centralisés qui brassent beaucoup plus de données sur les résultats des tests, les cas contacts, les vaccins, et la centralisation était certainement nécessaire pour des raisons d'efficacité, je la remets pas en cause en l'espèce, mais qui en matière de sécurité des données, de cybersécurité, qui est quand même un enjeu absolument fondamental aujourd'hui sur lequel la CNIL est très active, mérite une attention encore beaucoup plus importante.
Et en termes d'évaluation, justement, est-ce que vous avez pu commencer à évaluer ces dispositifs, leur efficacité, la proportionnalité, justement, entre l'objectif poursuivi et l'atteinte potentielle aux libertés ?
On le fait régulièrement dans le cadre notamment des avis que l'on rend tous les trois mois au Parlement sur ces systèmes d'information qui étaient prévus dans la loi sur l'état d'urgence. Je crois que c'est l'article 11 de la loi du 11 mai 2020. Et là, nous sommes en train d'élaborer le quatrième avis qui sera public bientôt. Effectivement, c'est un travail continu, mais il faut avoir bien à l'esprit de documenter, et ça c'est plutôt un message au pouvoir public hein, d'une façon générale, l'efficacité et les résultats de ces différents systèmes.
Et pour finir, peut-être, il y a aussi un enjeu de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Est-ce qu'en termes de sensibilisation, de formation, est-ce que la CNIL a agi auprès des acteurs publics justement pour les former, les sensibiliser, pour éviter justement, pour être sûr que tous ces dispositifs-là, en fait, à la source, soient mis en œuvre de la meilleure des façons possibles ?
Ah oui, ça, en amont, hein, nous avons vraiment un dialogue continu sur ces systèmes d'information avec les différentes parties prenantes. Et d'une façon beaucoup plus générale, nous avons un vrai rôle d'accompagnement. Je parlais des collectivités locales. Nous avons édité un guide, par exemple, sur la protection des données pour les collectivités locales. Nous participons au Salon des maires. Nous allons produire un module particulier sur notre cours en ligne sur les collectivités locales, que ce soit les smart cities, les enjeux sur les données d'état civil, sur les données électorales, enfin des tas de sujets comme ça. Est-ce qu'il est valable pour les collectivités locales et valable pour des tas d'autres acteurs publics? Mais c'est vrai que nous nous focalisons plus particulièrement sur deux thématiques en ce moment, qui sont les données de santé, qui sont d'une particulièrement sensibles et protégées comme telles d'ailleurs par le droit de la protection des données, et d'autre part la sécurité, la cybersécurité, dont la CNIL est un acteur essentiel, parce que le règlement général sur la protection des données, c'est le seul texte qui, à ma connaissance, impose des obligations de sécurité aux entreprises, aux administrations, aux acteurs publics, que je pourrais détailler le cas échéant, mais en tout cas, vous avez tous les contenus sur le site de la CNIL, et sachez quand même que la moitié des sanctions que l'on prononce, elles comportent des manquements à la sécurité des données, et il y a des choses toutes simples. Une recommandation sur les mots de passe que nous sommes en train d'actualiser, la moitié quasiment des manquements ou des failles que l'on constate proviennent de mots de passe qui sont insuffisamment robustes.
Bien, on espère qu'en tout cas les acteurs publics vont se saisir de toutes ces ressources et progresser en la matière. Merci beaucoup Marie-Laure Denis de nous avoir partagé votre éclairage sur cette crise sanitaire. Merci à vous d'avoir participé et merci à vous de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV, et à très vite pour une nouvelle émission.